J'ai découvert Amy Plante par une vidéo qu'elle a publiée le 10 octobre 2021 sur sa chaîne YouTube. Bon, j'avoue que c'est d'abord le titre qui m'a attiré. Je craque l'algorithme YouTube. Et puis, il y avait aussi la vignette. En deux parties. Sur la gauche, une jeune femme qui se tient la tête avec sa main. Et sur la droite, un tableau statistique. Alors j'ai cliqué.
Et la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai mis un mois à la faire. Et cette vidéo-là, il y a eu un travail acharné dessus. Et au final, elle a donné lieu à 30 000 abonnés en plus sur la chaîne et plus d'un million de vues sur le mois d'août. C'était plus du double de mon mois record. Et 84% des gens qui ont cliqué sur cette vidéo viennent de la recommandation. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand je rate des vidéos, c'est des vidéos qui me sont recommandées par YouTube. Mais quand tu assistes à la force de frappe de l'algorithme, tu te demandes forcément pourquoi. Pourquoi cette vidéo-là ?
Ce qui m'a tout de suite plu dans cette vidéo, c'est cette jeune femme de 22 ans, avec ses airs et ses intonations de jeune femme d'aujourd'hui, qui se fait aider par un spécialiste des data et se met à démonter de manière assez pointue l'algorithme de recommandation de YouTube.
Alors comment analyser ça ? Avec Marc, on commence à prendre le taux de clic par impression sur les environ 200 000 premières impressions. On fait tout un code qui nous prend grave du temps. Et là, sacrilège. Clairement, je restais sur ma faim, j'avais trop le seum.
Ensuite, j'ai regardé beaucoup d'autres vidéos de la chaîne d'Ami. Alors, j'ai découvert sa vie, son entrée à l'école 42, la formation de développeur créée par Xavier Niel et sa désormais mythique épreuve de recrutement qu'on appelle la piscine. J'ai appris aussi qu'Ami faisait un master à Dauphine. Et puis, dans les vidéos où elle raconte sa vie, j'ai découvert quelques-uns de ses copains, j'ai découvert sa mère et sa grand-mère roumaine. Mais bon, j'avoue que les vidéos qui m'ont le plus plu, ce sont celles où elle aborde des sujets tech. Quand elle parle de cyberpunk ou qu'elle essaie de comprendre comment on hack une webcam. Tout à coup, dans ses vidéos, Amy devient super rigoureuse, méthodique, et elle a des raisonnements qui, je le confesse, m'échappent un peu. Comme dans celle-ci où elle doit coder des mini-robots censés attaquer une cible.
Le code a changé.
Je me suis dit, parfait, ça va pas être trop dur à coder. Et dans mon code, ce que je dis, c'est qu'en fait, si on connaît pas encore l'information de où est la cible, donc on est encore en phase de recherche de la cible, dans ce cas, pour chaque voisin qui est autour de moi, s'il est dans la zone d'alignement, je lui indique d'aller dans la même direction que moi. S'il est dans la zone d'attraction, je lui ordonne de s'approcher de moi. Et s'il est dans la zone de répulsion, je lui ordonne de se décaler.
Dans ces moments-là, elle m'impressionne pas mal. Surtout quand je constate que plus de 360 000 personnes ont vu cette vidéo. Alors, j'en étais là quand, pendant les vacances de Noël, j'ai remplacé Sonia De Villers dans la matinale d'Inter et au détour d'une chronique, j'ai évoqué Amy Plante et sa chaîne.
En fait, c'est pas la culture numérique en tant que telle avec laquelle je suis déphasé. C'est pas parce que je n'arrive pas à regarder McFly et Carlito ou Cyprien que je ne suis pas intéressé par d'autres youtubeurs. C'est juste que je regarde autre chose sur YouTube. Par exemple, Amy Plante, cette jeune fille qui poste des vidéos alternant entre le récit de sa vie, de son âge et des trucs super geeks et pointus. En fait, le problème, c'est que je suis snob sur YouTube, comme je suis snob dans le reste de mes pratiques culturelles. C'est ça le problème.
Dans la journée, j'ai vu qu'Ami s'était mis à me suivre sur Twitter. Alors, je lui ai écrit un message du genre « Bon, j'ai à peine évoqué votre nom, mais j'aurais beaucoup à dire de ce que vous faites. Ça m'intéresse beaucoup, parlons-en un jour. » Quelques temps plus tard, elle m'a répondu en substance « Bah, en vrai, c'est ma mère qui vous a entendu. Elle était trop fière qu'on parle de sa fille sur Inter. On peut en discuter quand vous voulez. » Il nous a fallu quelques mois pour trouver un moment, et ce moment a fini par arriver. On s'est assis autour d'une table et on n'a pas commencé par le début. On n'a pas commencé par le début parce que ce qui m'intéressait, c'était son premier succès, le moment où sa chaîne a décollé. Aujourd'hui, elle compte à peu près 130 000 abonnés. Certaines de ses vidéos ont dépassé le million de vues et je voulais qu'Amy me raconte le moment où elle a senti que ça marchait.
Le premier boom, en fait, il a eu lieu avec la vidéo Laylo et le cyberpunk. Pour cette vidéo-là, je me suis dit, ok, donc là, t'as fait des vidéos, t'as appris un peu comment on fait le montage, etc., etc. Et je me suis dit, pour celle-là, j'ai envie que les gens, quand ils la voient, ils se disent, ah, c'est trop bien, j'ai envie de partager et en parler à des gens. J'étais grave fatiguée et tout, et je me suis dit, non, vas-y, tu vas pas aller à la soirée du Nouvel An, tu vas finir ta vidéo, comme ça, tu vas la mettre tout début janvier, tu vois. Les gens, ils seront encore en vacances, etc. Et donc, en fait, au début, je l'ai publiée. Et là, donc, comme d'habitude, j'ai quelques personnes qui regardaient, mais bon, à l'époque, j'avais genre 1000 abonnés, donc il y avait juste mes potes et les potes de mes potes, quoi. Et donc, du coup, je la partage. Et là, je commence à voir que les gens partagent d'eux-mêmes. Et je commence à avoir des messages de gens sur Instagram et qui me disent « Ouais, j'ai vu ta vidéo en recommandation sur la page d'accueil. » Alors moi, c'était la première fois qu'il y avait des gens qui me disaient que j'étais en recommandation. Et en fait, tout simplement, en gros, le boom, c'est quand l'algo me recommande.
Cette vidéo sur Laylo, j'avoue, je ne l'avais pas vue. Il faut dire que je connais rien au rap français. Mais alors, en la regardant, je me suis dit que j'aurais dû m'intéresser plutôt à Laylo, parce qu'en plus d'être un des grands rappeurs français depuis un moment déjà, il a un univers qui est très très lié aux technologies. Je me lève tard, je leur fais lag, lag, yeah. Je pense mon ordinateur, nada. Je sais pas, je vais kicker lag, lag. Mais je vais lui faire lag, lag. Je vois bien que leur cerveau lag, lag. Je vois que ma clique est jetlag. Et donc, Ami se lance dans une analyse comparée d'un jeu vidéo qui s'appelle Cyberpunk 2077 et de l'univers musical et textuel de Laylo avec un détour par les origines littéraires du cyberpunk.
Il y a clairement plein de ressemblances, mais il y a un truc qui m'échappe. Il y a la violence, il y a l'esthétique, il y a la technologie, et il y a Laylo aussi.
Cette vidéo, c'est le premier boom, comme Ami dit. C'est drôle parce que la question que je posais à Ami, raconte-moi ton premier succès, avait des intentions un peu existentielles. Comment vient un boom quand on est youtubeur? Qu'est-ce qu'on ressent, etc. Et Ami, elle me donne une réponse technique. Le boom, c'est quand l'algo me recommande. Bon, il faudra qu'on y revienne à l'algo, c'est sûr. Mais en attendant, je voudrais un peu plus de lyrisme. Alors, je repose ma question à Ami. Comment on vit un moment comme ça? Quand ça fait un an qu'on fait des vidéos un peu dans le vide et que tout à coup, ça prend.
Franchement, pour être honnête, clairement, c'est excitant, tu vois. T'as d'un coup des gens qui t'envoient des messages. Je pense que c'est pas naturel. T'es pas censé naturellement avoir autant d'amour, entre gros guillemets, parce que c'est pas vraiment de l'amour. Mais juste, les gens te disent « Ah, c'est trop bien ce que tu fais », qui te suivent, etc. D'avoir de l'attention, en fait, d'autant de gens, je pense que c'est pas naturel. Donc forcément, quand on reçoit comme ça, et en plus, c'est tout nouveau, et moi, d'autant plus, je fais pas des vidéos qui... Enfin, ça m'importe vraiment ce que je fais et j'y mets beaucoup de travail et tout, d'amour, etc. J'adore faire ça. Donc, quand les gens te disent « Oh, c'est trop bien », bah, t'es trop content. Clairement, t'es grave excité et tout, c'est trop bien. C'est trop, trop bien.
Je voulais du lyrisme, et ben voilà. Bon, je veux pas faire mon psy de comptoir, mais quand même, les mots comptent. Et ceux qu'emploie Ami sont significatifs. Amour, excitation, trop bien, etc. Et je trouve intéressant aussi qu'elle considère ça comme pas naturel. Alors, je sais pas si c'est exactement ça qu'elle décrit, mais ça me fait penser aux études qui ont pas mal circulé il y a quelques années et qui montraient que l'usage des réseaux sociaux, et notamment le fait de voir ses posts likés, produisait de la dopamine, l'hormone du plaisir. Alors, évidemment, à l'époque, on s'en est servi pour critiquer les réseaux sociaux et la manière dont ils sont fabriqués. J'ai jamais su trop quoi penser de cette critique, en particulier parce que plein d'autres choses dans la vie produisent de la dopamine sans qu'on y voie de problème. Mais bon. Donc, le premier boom a manifestement été un grand moment pour Ami. Mais dans le monde numérique, ces moments ont une particularité, ils sont matérialisés par des chiffres et des métriques. Et j'aimerais donc savoir si Ami a eu, pendant ce moment-là, les yeux rivés sur les métriques de sa chaîne.
Dès la première vague, je me suis rendu compte que quand tu fais de la création de contenu, il y a un aspect hyper nocif qui est que tu as tout le temps des notifications, tout le temps. Donc du coup, t'es tout le temps là à rafraîchir, à voir les chiffres. Je me souviens, le premier jour, vraiment, ça avait commencé à marcher. Genre, je me souviens que j'étais à 42, je travaillais sur mon projet et j'arrêtais pas de regarder où j'en suis, où ça en est, est-ce que ça a encore pris. Et vraiment, je rafraîchissais et là, je voyais, hop, 10 abonnés, 20 abonnés. C'était, oh là là, mais quand l'algo te recommande, c'est une folie. Vraiment, c'est une folie.
Et hop, le retour de l'algo. Mais là, je fais une remarque à Amy. Ce que je trouve étrange dans son récit, c'est qu'elle ne me semble pas jouir de voir son travail soudain récompensé, mais plutôt de constater la puissance de l'algo qui semble l'avoir élu comme une sorte de doigt de Dieu.
Ah bah, merde. Merde. Ouais, bah, je l'ai formulé comme ça, non, c'est vrai. Mais finalement, l'algo ne recommanderait pas une vidéo qui n'a aucun intérêt, tu vois.
Ouais, bah, ça se discute, hein. Parce qu'il y a comme une tautologie là-dedans. Est-ce que l'algo recommande la vidéo à partir de ses qualités propres ou à partir du fait qu'elle plaise au premier visionneur? Ça me fait penser à quelque chose dont j'ai peut-être déjà parlé dans un épisode précédent, mais je m'en souviens plus et ça m'emmerde un peu de tout réécouter. Bon, bref, j'étais à une conférence sur l'intelligence artificielle et une jeune doctorante en informatique était venue parler de l'algorithme de recommandation de la boîte qui finançait sa thèse, une grosse entreprise américaine du numérique. Pendant 10 minutes, elle a expliqué les modèles statistiques assez compliqué, enfin j'y comprenais rien, qui était utilisé pour promouvoir des vidéos de qualité. C'est le mot qu'elle employait. Je trouvais ça intéressant de vouloir faire de la qualité une donnée de la recommandation. Alors, à la fin de sa présentation, je lui ai naïvement demandé comment la qualité de ses vidéos était évaluée, sur quels critères. Et alors, elle m'a répondu, mais hyper sérieusement, une vidéo de qualité est une vidéo qui plaît à celui qui la regarde. Alors, j'ai trouvé cette réponse merveilleuse dans sa tautologie presque folle. Alors, Ami ne dit pas exactement ça, mais elle manifeste quand même une forme de confiance dans l'algo. Il ne recommanderait pas un truc nul. Ok, donc je lui demande ce qui fait selon elle que cette vidéo avait plus de qualité ou a plus marché que les précédentes.
Ouais, je pense. Ouais. Je pense que c'est graduel, tu vois. Si t'as effectivement t'as 1000 abonnés, l'algo ne te recommande pas. Je pense qu'il doit y avoir un socle à partir duquel on te recommande. Mais par contre, je pense que sur cette vidéo-là, comme il y a eu un engagement particulièrement plus important et qu'il y a eu beaucoup de partages, à mon avis, le partage doit beaucoup plus compter sur des petites vidéos, tu vois, sur des petites chaînes. Je pense que du coup, l'algo s'est dit, ah, cette vidéo-là, peut-être on va essayer de la recommander. Et ensuite, plus ça clique, plus ça recommande. Hein.
Là, je l'interromps à nouveau. Bon, ok, c'est super ce que tu me racontes sur l'algo, l'histoire du plafond, du taux d'engagement, etc. On y reviendra. Mais ma question n'était pas celle-là. Ma question, c'était plutôt, est-ce que tu as compris ce qu'il y avait thématiquement et esthétiquement dans cette vidéo pour qu'elle plaise à ce point?
Mais thématiquement. Non, mais en fait, je fais aussi mon mémoire sur le système de recommandation de YouTube, donc je crois que je suis un peu matrixée aussi par les recommandations avec les features et tout. Mais en vrai, je pense que en termes de thématique, je faisais des trucs bien, mais cette thématique-là intéressait toute la communauté de gens qui regardent Laylo, tu vois. Tu sais, c'est quand même des communautés au niveau du rap, parfois, sur un artiste, les gens sont parfois très engagés, surtout sur cet artiste-là. Ils ont vu une vidéo sur le sujet. Donc, ils ont peut-être cliqué, ils ont vu, voilà. Et puis, ça va vite, hein, dans les communautés, ils se suivent tous sur Twitter ou quoi. Effectivement, les gens partagent et c'est comme ça que ça se passe. Hein.
C'est très intéressant ce que dit Ami sur la puissance des communautés. Et très logique. Plus une communauté est engagée, ici celle des amateurs de Laylo, plus elle va partager les contenus qui l'intéressent. Or, si comme le pense Ami, l'algo de YouTube tient grand compte de l'engagement pour recommander un contenu ensuite, ça a toute une série de conséquences très concrètes. Bon, par exemple, ça permet de comprendre pourquoi ces algos de recommandation très engagement-centrés peuvent se mettre à donner de la visibilité, et parfois une très grande visibilité, à des contenus qui sont de niche. Je pense à des trucs comme les théories de la Terre plate ou autres. C'est parce que ces contenus de niche provoquent beaucoup d'engagement. En fait, ces algos donnent de la visibilité à la marge, c'est inscrit en eux. Et voilà comment s'explique un paradoxe qui est celui de notre Internet. Un contenu d'intérêt général, mais qui ne produit pas d'engagement fort, est défavorisé par rapport à un contenu de niche, ou polémique, ou carrément faux, mais qui produit de l'engagement. Les conséquences politiques de ce choix technique, elles sont énormes, et on le constate tous les jours. Alors, en l'occurrence, avec cette vidéo sur Laylo, Amy a bénéficié de ce mécanisme. Tant mieux pour elle. Et tant mieux pour moi, parce que c'est comme ça que je suis tombé sur elle. Mais justement, j'aimerais qu'on remonte un peu en arrière. Le boom dont parle Amy, il date de 2021. Mais quand est-ce qu'elle a commencé à faire ses vidéos? Et pourquoi?
La première vidéo, je l'avais publiée en décembre 2019. Déjà, de base, j'aime faire de la vidéo. Je faisais de la vidéo un peu quand j'étais au collège et tout. Je faisais des vidéos de mes vacances avec mes potes, tout ça. Et donc, j'ai commencé à faire la première vidéo parce que j'avais envie de faire une vidéo sur la piscine de 42, donc les recrutements de l'école 42. Parce que moi, à l'époque, quand j'avais voulu passer les recrutements, il n'y avait pas de vidéo comme je voulais. Vraiment, on voyait les plans et tout, à quoi ça ressemblait en fait. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo-là. Et ensuite, j'avais plein de trucs à raconter en fait. J'avais envie de... Je sais pas, j'avais envie d'un endroit où m'exprimer, tu vois. Et avoir accès à plein de gens, à plein d'auditeurs, à plein de spectateurs plutôt, dans le monde, grâce à une plateforme et à un petit endroit, mon petit endroit à moi, tu vois, c'est ma petite chaîne, je publie mes petits trucs et tout. Et puis à l'époque, c'était pas professionnel, tu vois. Je me faisais kiffer juste, en fait.
Je trouve passionnante la superposition des mobiles. Un, le goût et la pratique de la vidéo. Bon, ça, c'est clairement générationnel. Moi, j'ai grandi au temps de la Super 8, puis des vidéocassettes, montées, tout ça, c'était un autre beans. Deuxième mobile. Combler un vide informationnel, raconter ce recrutement si particulier de l'école 42. Et puis un mobile plus existentiel, avoir un endroit où s'exprimer. Bon, moi c'est ce dernier mobile qui me semble le plus exotique et qui m'intrigue le plus. D'où la question de l'adresse. Par exemple, quand au début d'une vidéo, Amy est face cam et qu'elle se met à raconter ça.
Je m'appelle Emma et en gros quand j'étais petite, ma grand-mère elle a commencé à me dire Amy. Et en gros il y avait une pub pour des shampoings à la télé qui s'appelait Amy Plante. Et donc du coup, je suis devenue Amy Plante.
Xavier Delaporte. À qui qui parle-t-elle quand elle dit ça? Et plus généralement, quand elle fait ses vidéos. Est-ce qu'elle a, par exemple, un spectateur imaginaire?
J'imagine personne, en vrai. Je fais ma vidéo à destination des gens, mais inconsciemment, en fait, je pense pas qu'il y a vraiment des gens qui vont regarder derrière, tu vois. Enfin, si, mais je sais pas, c'est pas conscient. J'imagine pas quelqu'un en particulier qui va recevoir ma vidéo, tu vois. Non, j'ai pas de spectateur imaginaire. Je m'adresse à tout le monde et j'ai envie que ce soit éclectique, tu vois, ma chaîne. J'ai envie que ça puisse parler à quelqu'un de, je sais pas, 70 ans comme à quelqu'un de 17 ans, tu vois.
Ok, si le but est de toucher un vaste spectre de spectateurs, se pose la question de la forme. Trouver une forme à la fois personnelle et relativement œcuménique. Et de fait, Amy, elle a un style qui tient au rythme du montage, qui tient au ton, qui tient à l'univers sonore, celui du rap français. Et je lui demande si elle a tout de suite trouvé cette forme.
Elle n'est pas arrivée tout de suite, hein. Non, franchement non. J'ai passé du temps à me rendre compte de qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce qui allait bien, à apprendre, tu vois, à me rendre compte. Et j'ai même sondé mes potes, je leur disais, ouais, vous avez kiffé quoi dessus dans la vidéo? J'avais même fait un Google Doc avec un petit QCM et tout. Il faut qu'ils me disent ce qu'ils en pensent et tout. Je leur disais, ouais, dites-moi honnêtement. Donc ouais, j'avais des feedbacks et j'essaie d'améliorer. T'apprends en fait, t'apprends au fur et à mesure. Sur les vignettes, faut mettre sa tête. Le titre vignette, faut le dire quand même. C'est hyper important. Ta vidéo, elle a beau être génialissime, si ton titre vignette, il donne pas envie, personne verra ta vidéo, tu vois.
Elle est drôle, amie. Elle a 22 ans. Et il y a chez elle un mélange de spontanéité et d'organisation. Le Google Doc avec un QCM pour les copains, c'est quand même l'équivalent homemade du sondage qualitatif. Alors ensuite, ce truc des vignettes, c'est intéressant ça. J'avais jamais réfléchi à la question des vignettes de vidéos sur YouTube, alors même que c'est évident et que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'ai cliqué sur sa vidéo la première fois. La vignette de vidéo, c'est l'équivalent de l'affiche de film ou de la pochette d'album en musique. Et quand on voit une jeune femme qui parle de sujet tech, eh ben, c'est intriguant. Bon, faudra qu'on revienne à cette question. Mais en attendant, puisqu'elle raconte son apprentissage progressif, j'aimerais savoir ce qu'elle a appris d'autre.
Dans la structure des vidéos, tu vois, dans la narration, etc., c'est quelque chose qui s'apprend, comment tu montres les choses. Moi, je me dis toujours que, tu vois, quand je pense une vidéo, j'ai envie de raconter l'histoire de ce qui s'est passé, tu vois. Et je me dis toujours que, au lieu de juste raconter une histoire, j'essaie de la faire ressentir aux gens, tu vois. Parce que moi, quand je regarde un film ou quoi, je suis dedans, tu vois, je ressens les émotions du personnage. Sans qu'il me raconte, lui, ah bah alors là, tout de suite, je ressens de la tristesse, tu vois, non. Bah, je fais comment avec la musique, avec... la narration, les voix, avec tout ce qui est, tous les outils que t'as, quoi. Les couleurs.
En écoutant Amy, je comprends un truc. Elle fait l'inverse de ce que je fais. Elle suggère, elle n'explicite pas. Alors parfois, elle explicite aussi. Il peut y avoir un côté un peu pédago dans certaines de ses vidéos. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'évoquer. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs. Même quand le sujet est très technique, elle trouve des angles de vue, des valeurs de plan, de la musique qui apporte autre chose. Et je constate que tout ça, ça me soucie assez peu quand je fais mes machins. Heureusement que la super équipe des podcasts d'Inter est là pour que mes trucs soient agréables à écouter, parce que sans elle, ce serait totalement indigeste. Moi, ce qui m'obsède, c'est le sens. Et le sens, c'est chiant. Alors, Amy, elle insiste sur la narration. C'est intéressant parce que dans les vidéos d'Amy, la structure narrative est souvent assez complexe. Notamment du point de vue des temporalités. La vidéo commence à un temps 0, puis elle revient en arrière à un temps moins 1, elle retourne au temps 0, mais se permet un commentaire depuis le moment du montage, ce qui ajoute une nouvelle strate temporelle. Alors moi je trouve ça assez fort, comme dans cette vidéo qui s'appelle « Ça joue », et où Amy se filme en train de jouer à Cyberpunk 2077.
En fait, la vidéo elle a été filmée le 31, mais quelques semaines plus tôt, j'avais déjà essayé de la filmer.
En fait, je me rends compte que ma journée n'a été que d'échec sur échec.
Voilà, là, c'était la première tentative où j'avais essayé de filmer. On sent que j'étais déjà un peu à bout.
Moi, il y a des moments où ça me perd complètement. Et donc, je demande à Amy quelle est la fonction de la multiplication des strates temporelles et notamment les commentaires lors du montage.
Enfin, quand je suis au moment du montage, c'est un moment qui est important parce que je monte la vidéo et du coup, je me rends compte un peu comme si j'étais le spectateur de ce que ça donne sur le final, quoi. Donc, j'ai toujours des petits commentaires qui me viennent en tête et je trouve ça sympa de les rajouter. Et je pense que aussi, ça donne un côté très plus personnel. Tu vois, ils voient l'arrière du décor quand moi, je suis en train de monter, ce que je me dis comme eux, ce qu'ils se disent en voyant ma vidéo, tu vois.
Ouais, bah, pour le dire autrement, Amy, elle fait du métadiscours. Mais surtout, un métadiscours depuis une position qui double celle du spectateur. Ce qui lui permet, par exemple, de désamorcer des trucs ou de se moquer d'elle-même, c'est hyper malin. Mais du coup, elle est toujours dans le commentaire.
Je sais pas si c'est bien, mais c'est vrai que je suis tout le temps dans le commentaire, dans la réflexion du truc et tout. Ouais, c'est vrai.
Là, j'ai un peu l'impression de lui faire découvrir des trucs sur ce qu'elle fait. Et c'est marrant parce que ça me rappelle une anecdote que j'avais entendue pendant mes études de lettres. Alors je sais pas si elle concernait Peggy ou un autre grand écrivain de cette époque, mais bon, à la limite, peu importe. L'écrivain en question racontait qu'il s'était pointé incognito dans un amphithéâtre d'université où avait lieu un cours sur un de ses textes, et qu'il était ressorti effaré par la richesse de ce qu'il écrivait, admiratif qu'il y ait tout ça dans ses livres. Bon, en passant, il se foutait un peu de la gueule de ses profs d'université qui se coupaient les cheveux en quatre pour trouver dans ses textes ce qu'il n'y avait pas mis. Mais c'est pas grave, je continue à faire mon prof et je demande à Ami de me catégoriser ses vidéos en genre et sous-genre.
En fait, en gros, je fais plusieurs types de vidéos. Je fais les vidéos informatiques, voilà, sur le numérique, etc., qui sont scriptées, mais là, c'est de la vulgarisation plus. Donc du coup, il n'y a pas le côté grosse narration, gros essai, quoi. Et ensuite, je fais des vidéos sur ma vie. Donc là, des choses plus personnelles, etc. Et sur les vidéos sur ma vie, je fais à la fois des trucs plus vlog, comme cet été dans mes vacances, etc., mes grands-parents et tout, et à la fois des vidéos essais comme par exemple sur Laylo, mais aussi sur le Darknet. J'appelle essais des vidéos où je raconte mes sentiments et mes émotions, etc. Et je tire un fil narratif. J'appelle ça des essais. Ouais. Juste parce qu'une fois, Cyprien, il avait dit dans 301 vues, il avait fait « Ouais, elle fait des essais et tout, je trouve ça stylé. » Du coup, maintenant, je dis que je faisais des essais.
Hyper marrant, cette histoire d'essais. Bon, en gros, ce que raconte Ami, c'est la codification d'un genre à partir d'une référence, en l'occurrence Cyprien, un des plus grands youtubeurs français. Alors, on peut se désoler en pensant que les essais de Cyprien ne valent pas ceux de Montaigne. Évidemment, bon, et de toute façon, pas grand-chose n'arrive à la hauteur des essais de Montaigne, et en l'occurrence, c'est pas la question. La question, c'est qu'il y a des genres sur YouTube. Le vlog, le gaming, la vulgarisation et l'essai. Et que ces genres ont des histoires. Parmi les vidéos d'Ami, il y a en particulier celles qui ressortissent au genre vlog, c'est-à-dire le blog vidéo, le récit de vie par la vidéo. Il y a des vidéos de ses vacances avec ses copains, ou celles très belles, où elle se rend en Roumanie pour aller voir sa grand-mère, alias Bunica.
Bref, au final, on a trouvé un Uber et on est enfin arrivé à l'adresse de Bunica. Regardez, elle est pas trop mignonne en vrai. Je vous présente Bunica 22 ans après.
Moi, évidemment, ça me pose une question. Pourquoi se mettre à documenter sa vie comme ça?
Je sais pas pourquoi, mais j'ai grave cette obsession de conserver l'histoire de ma vie. Mais vraiment, je me dis que c'est important, même j'écris quand ma grand-mère me raconte des trucs et tout, j'écris. Le temps passe tellement vite et tout, et je me dis que j'oublie, je perds tellement de souvenirs que à 60, 70 ans, quand je serai mamie, si j'y arrive un jour, on espère, hein, je me souviendrai plus de tout le chemin que j'ai parcouru. Ça me fait trop peur. J'ai pas envie de ne plus me souvenir, donc j'ai envie d'écrire et garder, conserver en fait cette histoire.
Ouais, ok, mais cette documentation, c'est pas un journal intime ou des films qu'on fait pour soi. Il s'agit de vidéos postées sur un réseau social public et réalisées dans le but d'être vues par le plus grand nombre. Il y a donc une ambition autre que la simple conservation pour soi.
Je le perçois comme le témoignage de ma vie. Les pensées, la vie d'une meuf voilà, à la vingtaine qui kiffe le numérique et l'informatique et qui vit dans ce monde marqué par le numérique, tout simplement.
Là, ça me paraît plus clair. Et j'y reconnais mieux ce qui me plaît dans ce que fait Ami. Mais il y a quand même quelque chose qui me perturbe. Cet album de famille qui fait témoignage, il est public. Tout ça appartient à une plateforme qui est aussi une entreprise. Tout ça a pu être copié, conservé par des gens, et même si Ami décide de l'effacer, ça existera toujours quelque part. Peut-être que quand elle aura mon âge, elle n'aura plus envie que ce soit public. Est-ce qu'elle y pense à ça?
En fait, cet album de famille-là, il n'existerait même pas s'il n'y a pas des gens qui le regarderaient, tu vois. Jamais je prendrais le temps de faire des vidéos comme ça s'il n'y a pas des gens qui le regarderaient. Si même aujourd'hui, je pouvais en vivre, espérons que je puisse vraiment en vivre voilà, dans les prochains mois, bah, j'aurais la chance de pouvoir travailler sur mon album de famille, comme tu dis, bah, en étant payée. Et jamais j'aurais un tel témoignage de ma vie si ce n'était pas mon métier, parce qu'il faut bien vivre. Hein. Tu vois, ça prend du temps de faire des vidéos comme ça.
Ce rapport entre l'intime, le public et le rémunérateur, c'est un des paradoxes de notre époque. C'est le paradoxe des youtubeurs, des instagrammeurs et instagrammeuses, des influenceurs et influenceuses en tout genre, chez qui tout ça se mêle d'une manière qui est quand même très étrange. D'ailleurs, je me demande à quoi c'est comparable dans l'histoire. Est-ce que c'est comparable aux gens qui naguère publiaient des mémoires? Bah, pas vraiment. Souvent, les mémoires étaient posthumes, et quand ils ne l'étaient pas, la rétribution visée par l'auteur, elle était plus la postérité que la rémunération sonnante et trébuchante. Autre comparaison possible, les auteurs d'autobiographies et d'autofiction qui pullulent dans la littérature depuis quelques décennies. C'est peut-être ce qui se rapprocherait le plus de ce que fait Amy. Mais voilà, outre le fait que ce soit de la vidéo, évidemment, ce qui distingue fondamentalement ce que Amy fait d'une autofiction littéraire, c'est cette dépendance vis-à-vis d'un algorithme. Le succès dépendra de la manière dont l'algorithme recommandera ou pas la vidéo aux internautes qui fréquentent la plateforme. Et j'aimerais savoir ce que Amy a compris du fonctionnement de cet algo en faisant la vidéo « Je craque l'algorithme YouTube ».
Xavier Delaporte sur France Inter.
Moi, je pense surtout que le plus important, c'est le taux de clic par impression. Donc le nombre de gens qui vont cliquer sur la vidéo quand ils voient la vignette et le titre, et le watch time. Donc c'est-à-dire combien de pourcentage de la vidéo les gens regardaient en moyenne. Pour moi, ces deux métriques-là, c'est le cœur du truc.
Si quand elle dit ça, Amy est prudente, c'est qu'elle n'en est pas certaine. En fait, l'algo de YouTube, il est secret. On ne peut deviner comment il fonctionne qu'en brassant des données, en testant des hypothèses permettant de déduire les paramètres qu'il prend en compte. Bon, si je ne m'abuse, et je pose la question à Amy, ça s'appelle du rétro-engineering.
Ça s'appelle du rétro-engineering, effectivement, c'est ça qu'on a fait. Et donc, oui, tu peux voir des tendances grâce au rétro-engineering, mais rien n'est mis en place de façon à ce qu'il y ait de la transparence vraiment du système de recommandation de YouTube. Rien n'est mis en place de façon à ce que les chercheurs, par exemple, aient accès aux données qui entraînent les machines, tu vois, de YouTube. Donc effectivement, t'as une opacité énorme. Ça m'intéresse pas parce que j'ai envie d'avoir la recette pour que toutes mes vidéos marchent, que c'est pas une recette, tu vois, ça se passe pas comme ça en soi. C'est beaucoup plus complexe que ça. La machine, elle est entraînée sur 80 000... Enfin, ils récoltent 80 milliards de données par jour. Mais je me demande même si eux-mêmes savent expliquer le comportement de la machine et savent prévoir le comportement de la machine. Même eux ne savent pas, je pense, tu vois. Sur du deep learning, etc., c'est un truc énorme. Donc je peux pas avoir la recette du truc, ça n'existe pas, ça, tu vois. Moi, ça m'intéresse parce qu'en fait, en tant que créateur, tu dépends énormément de ça, en fait. Tu dépends, mais en grande majorité de ça. C'est dur, en tant que créateur, tu vois. Le système de recommandation ne te recommande plus, t'as plus de travail. C'est chaud.
Le créateur n'a accès qu'à des métriques qui concernent ses propres vidéos et qui lui permettent de voir ce qui marche et ce qui marche pas, mais pas d'en déduire comment YouTube fonctionne en général. Et les données qui seraient vraiment intéressantes, eh ben elles sont pas si facilement accessibles.
Et en fait, c'est la stat que j'arrivais pas à trouver.
Et elle était affichée sur un onglet d'un onglet d'un onglet en petit là.
Et finalement, tu peux trouver aussi ça ici, mais bon, faut cliquer là, prendre le pourcentage ce total, l'ajouter au pourcentage ici. Bref, bizarre que ce soit aussi compliqué de récupérer une valeur qui me dit concrètement à quel point ma vidéo a été recommandée.
Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quelle conclusion elle a tirée pour elle de son travail sur l'algo.
Bah, j'en ai déduit que faut faire de la qualité en termes de contenu pour que les gens y restent assez longtemps dans la vidéo et en même temps faire un titre vignette un peu putaclic quoi. Non, mais honnêtement, c'est clairement ça. Hein.
Bon résumé. Et en même temps, vraie contradiction très difficile à résoudre. Quand j'étais chef de Rue 89, on était exactement dans ce dilemme. Rue 89 était un média uniquement en ligne. Un papier ne circule sur le web que si son titre donne envie de cliquer. C'est ce que Amy appelle putaclic. Mais il n'est vraiment lu et partagé ensuite que s'il est de qualité. Le problème, c'est que un titre trop putaclic nuit aussi au papier. Il le disqualifie auprès de certains qui seraient sinon enclins à le lire et puis ensuite à le partager. Et si l'article est de trop bonne qualité, il déçoit ceux qui n'ont été attirés que par ce titre putaclic. Bref, il faut trouver un équilibre. Au quotidien, quand on sait que beaucoup, voire tout, va se jouer là, c'est très très compliqué. Et j'imagine que c'est la même chose, encore plus radicalisée pour une vidéo YouTube. D'autant quand on a décidé d'en vivre, comme c'est le cas d'Amy aujourd'hui. Et là se pose toute une série de nouvelles questions. Alors, je commence par les sources de rémunération. C'est quoi les sources de rémunération pour quelqu'un comme Amy ?
T'as plusieurs canaux de revenus. T'as les revenus donc, de YouTube, donc directement que la plateforme te rémunère, qui sont, faut le dire, vraiment pas beaucoup. Alors, eux récupèrent 45% et toi, tu prends 55% des revenus des publicités qui sont affichées sur ta vidéo à toi. Je crois que sur la vidéo, par exemple, Akeno Webcam, je crois que j'ai gagné 850 ou 900 euros pour plus d'1 million de viewers. Mais sachant qu'après, t'as les cotisations sociales, t'as tout ça, tu vois, c'est pas en net. Hein. Mais après, ça dépend aussi, parce que moi, c'est plus d'1 million de vues, mais ça dépend de la durée de ta vidéo. Hein. Selon la longueur aussi des gens, ce qu'ils regardent, je pense. Et aussi, tout le monde a un chiffre différent, tu gagnes plus ou moins avec les vues. Oui, normalement sur ton YouTube Studio, c'est écrit, enfin c'est transparent. Tu connais le tien, mais tu connais pas celui des gens. Donc sur mon YouTube Studio, moi, c'est écrit combien je gagne pour 1000 vues.
Bon, ok, c'est pas énorme. Ça, c'était la première source, le reversement par YouTube d'une partie des revenus publicitaires générés par la vidéo. D'accord, on continue.
Après, t'as les droits d'auteur, mais bon, là, c'est encore moins que... encore 10 fois moins que ce que j'ai gagné avec YouTube. Donc en fait, la vraie source de revenus, c'est les partenariats. Alors, je t'explique, tout le monde prend sa croûte là encore. Hein. Il y a nous, les YouTubeurs, les créateurs, tu vois. Ensuite, t'as les agences. Et ensuite, t'as les marques. Donc, il y a 3 acteurs, tu vois. Et entre les marques et nous, les créateurs, souvent, en général, les 3/4 du temps, il y a une agence. Parfois, ça passe directement de la marque au créateur, mais bon, c'est assez rare. L'agence prend une commission sur la transaction qui est faite entre les deux acteurs, tu vois.
Ami, pour l'instant, elle n'a pas recours à une agence, elle s'occupe toute seule de la négociation des partenariats. Et donc, elle en a fait plusieurs ces derniers temps, pour un VPN et une marque d'ordinateur. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment marchent concrètement ces partenariats? Quel est le type de contrat? Comment est formulé le contrat?
Tu as un brief, tu vois, avec un diaporama, quoi, avec dessus écrit des informations, ce qu'il faut dire. Mais genre, c'est pas écrit, faut pas tout dire, tu vois, ils te donnent des infos et après toi tu choisis et tu t'arranges ta sauce, quoi, pour que ça aille avec ta chaîne et tout. Et donc, ouais, ils t'envoient, ils te disent, voilà, contrat, soit vidéo dédiée, donc là tu parles grave du produit, soit intégration de 60 à 90 secondes. Après, t'as des allers-retours et tout, faut qu'ils valident et tout, c'est une galère. Hein. T'envoies la vidéo, ils disent, oui, non, faut changer ça, après tu changes, tu renvoies, c'est bon, après tu publies ton truc, enfin.
J'avoue que quand j'ai vu les premières pubs surgir dans les vidéos d'amis, j'ai trouvé ça un peu bizarre, presque malaisant. Parce que même s'il est mentionné au début de la vidéo qu'elle comporte un message publicitaire, il est pris dans le cours de la narration d'une manière qui n'est pas complètement claire. Et j'imagine que ça lui pose question à elle aussi, à Amy. Et donc je lui demande ce qu'elle a l'impression de faire quand elle fait ça.
Bah du téléshopping, hein. Non mais c'est vrai, c'est comme le téléshopping à la télé. Quand j'étais petite, j'avais 10 ans, j'ai regardé sur M6 téléshopping le dimanche matin, c'est pareil. Je fais ça parce que je me dis, faut bien gagner de l'argent, tu vois, pour pouvoir être à temps plein sur YouTube. Et finalement, c'est le modèle rentable. Parce que si tu gagnes de l'argent qu'avec les vues, avec le type de vidéo que je fais, je peux te dire, c'est compliqué hein, pour manger après. Hein. En vrai, donc c'est pour ça que le modèle, c'est celui du partenariat, quoi.
En même temps, il y a des partenaires plus ou moins exigeants. Il peut y avoir des partenariats avec des institutions, par exemple. Amy, elle est en discussion avec l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, et c'est pas comme une entreprise. Et puis par ailleurs, il peut y avoir d'autres sources de revenus. Par exemple, Amy, elle est en discussion aussi avec une chaîne de télé pour une série web qui lui permettrait de plus faire de partenariats. Parce que son but à elle, c'est d'éviter ces partenariats. Mais la question que je me pose, c'est, bon, en cumulant les sources, un bon mois, pour elle, c'est quoi?
Pratiquement 4 000 euros. Pour le mois, ouais. Non, mais tu sais que c'est rien. Hein. Si tu voyais d'autres youtubeurs, mais moi, les bras m'en tombent. Hein. Les gens qui ont vraiment beaucoup de monde qui les suivent, les partenariats, ça rémunère très, très bien. Le monde de l'influence rémunère pour ceux pour qui ça marche. Ça marche pour très peu de gens. Mmh. Et pour ceux pour qui ça marche, ça rémunère vraiment très, très bien.
Ça, on le sait. Hein. Si on s'en tient aux 3 youtubeurs français les plus connus, et si on en croit les quelques chiffres rendus publics, c'est en 2021, je crois, on arrive à 48 000 euros par mois pour Squeezie, pour 15,3 millions d'abonnés. Norman, lui, serait proche des 17 000 euros par mois, pour plus de 12 millions d'abonnés. Et Cyprien atteindrait les 15 000 euros. Bon, 4 000 euros pour les très bons mois, c'est pas si mal, même si Amy explique que la fabrication d'une vidéo lui demande 2 semaines à temps plein. Donc, peut-être que Amy bientôt fera ça de sa vie. Elle sera une youtubeuse à plein temps. Bon, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, mais il y a un aspect central de son travail qu'on n'a pas encore abordé, à savoir son lien à l'informatique. S'il est central, c'est parce qu'il recoupe une grande part des sujets qu'elle traite, mais surtout parce que c'est le sujet de ses vidéos qui ont le plus de succès. Et donc, je demande à Amy comment elle est devenue une geek.
Oh, je sais pas si je suis une geek, hein. j'aime bien les trucs autour du numérique et de l'informatique, quoi. Quand j'étais en licence à Nanterre, j'ai fait une licence à Nanterre, un peu de lettres, sciences politiques, droit, c'est un truc pluridisciplinaire. Dès la L2, tu vois, je me disais, ouais, j'ai, je sais pas, j'ai envie d'avoir un projet à côté et tout, je veux pas finir dans un CDI. Enfin, depuis toujours, je voulais pas finir dans un CDI. Mais en fait, déjà, de base, je voulais faire une école d'art au tout début. Hein. Ma mounette, elle a dit, école d'art, c'est une mauvaise idée. Donc finalement, j'ai fait ma licence et tout. Et là, je me disais, non, faut que je m'échappe avec un projet à côté, tu vois. Donc du coup, j'ai fait le statut étudiant entrepreneur. J'ai eu une idée un peu de création d'entreprise autour des séjours linguistiques, enfin bref, un truc un peu de merde. Mais je me suis quand même rendu compte en même temps qu'en fait, je voulais coder ma plateforme de séjour linguistique là, mais je pouvais pas parce que je savais pas faire l'informatique. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais la coder moi-même. Et donc je commençais à regarder un peu pour le développement web. Et après, je me suis dit, ah, vas-y, je vais faire une formation sinon. Donc je voulais faire une formation qui s'appelle The Hacking Project, qui est devenue payante au moment où je voulais la faire. Et j'ai dit, non, bah, c'est devenu payant, vas-y, maintenant je vais faire la piscine, tu vois. Donc au final, je me suis retrouvée à la piscine. Et là, j'ai grave aimé et ensuite j'ai continué sur l'informatique.
Elle est très marrante quand même, Amy. Voici donc comment, d'études de lettres et de sciences politiques, elle se retrouve à la piscine, le processus de recrutement de l'école 42, et qu'elle se met à l'informatique. Ça m'intrigue, ça. Et qu'est-ce qu'elle a aimé là-dedans?
C'était développeur. Ton travail, ça va. Tu fais pas un travail chiant, genre, tu résous des problèmes. Et t'arrives à faire des trucs que les gens n'arrivent pas à faire. Et ça, c'est stylé. J'aime bien. Et surtout, t'apprends. Je trouve que vraiment, en informatique, t'apprends à apprendre tout seul avec Internet. Et c'est une très très bonne ressource à avoir.
Même si je suis une grosse quiche en informatique, je vois assez bien ce qu'elle veut dire. Il y a quelque chose d'hyper satisfaisant à résoudre un problème informatique tout seul, en faisant des recherches sur Internet quand le problème se pose. Bon, dans mon cas, ça se résume à trouver des raccourcis clavier ou chercher comment activer sa caméra quand elle ne marche plus. Mais quand même, ça peut faire plaisir de trouver la solution tout seul. Bon, avant de savoir faire ce que Amy sait faire, il me faudrait des heures et des heures de travail. Et donc, je lui fais remarquer qu'elle me semble assez douée. Par exemple, dans cette vidéo où elle programme des robots virtuels qui doivent atteindre une cible en groupe. Décidément, j'ai regardé plusieurs fois cette vidéo et je ne comprends toujours pas comment elle s'y prend.
Donc j'ai fait un script, c'est-à-dire un fichier qui automatise les tâches et qui me lance 10 simulations en parallèle et qui m'envoie directement la moyenne pour éviter de tout tester à la main et que ça prenne grave du temps. Et j'ai codé et testé les 3 idées, la moyenne, le voisin le plus proche et les 3 erreurs. Et le mieux, c'était clairement le voisin le plus proche.
Manifestement, elle s'en tire pas mal parce qu'elle participe à un petit concours.
Ça me paraissait pas trop mal, donc du coup j'ai envoyé cette version-là en espérant que ce soit pas trop pourri, je croisais les doigts. Et donc du coup, roulement de tambour, Maisie m'a dit que j'étais allée en quart de finale et que je me suis fait éliminer par celui qui a gagné le tournoi. Apparemment, mon programme a fait genre le 3e meilleur temps moyen. Ça va, en vrai j'étais surprise, je pensais que c'était un peu plus pourri que ça. Voilà, au moins j'ai sauvé les meubles, j'ai pas passé pour une grosse boulousse.
Et donc le plaisir de faire ça, c'est quoi? J'ai besoin qu'elle me l'explique, parce que c'est un plaisir précisément qui m'est inaccessible.
Quand à la fin ça marche, tu vois, tu te dis j'ai réussi à faire ça, c'est ouf, tu vois. Enfin, tu vois pas du coup, mais... je pense que j'aime bien ce qui est difficile à faire. Mais parfois c'est dur, moi ça m'est déjà arrivé où vraiment j'arrivais pas à faire des choses, et tu bloques sur un problème pendant très longtemps, et à la fin... C'est compliqué quand tu bloques, limite t'as envie de pleurer, tu vois. Vraiment. Et j'aime la difficulté de galérer, en vrai.
Quand on regarde la chaîne d'Amy de manière chronologique, on remarque un phénomène intéressant. De plus en plus, elle aborde des sujets qui ne sont plus proprement informatiques, qui ne touchent plus seulement à la culture geek, mais qui concernent des problématiques numériques plus macro. Par exemple, dans une dernière vidéo où elle se prépare à un entretien chez Google, ce qui l'amène à s'informer et à réfléchir.
Et je me suis demandé, tu vois, à ce moment-là, si j'avais vraiment envie de travailler pour une entreprise comme Google. Et c'est clair qu'en fait, surtout dans la tech, les gens adoreraient travailler pour Google. Et effectivement, quand tu vois les salaires, le pôle technologique que c'est, même la gentillesse des gens de chez Google, tu comprends pourquoi. Et je me suis dit qu'il y avait grave de la demande pour travailler chez eux, et que plus il y a de la demande, plus la valeur d'un travail chez Google augmente. Et voilà comment sûrement, ils doivent récupérer des putains de talents.
Dans une autre vidéo, elle explique la manière dont Instagram capte notre attention et pourquoi la plateforme ne nous fait pas que du bien.
Et René Girard, il a développé une théorie que je trouve trop intéressante, ça s'appelle la théorie du désir mimétique. Et il met en avant qu'en fait, les hommes, ils désirent tout le temps des trucs. Tu vois, on désire tout le temps avoir tel objet, faire tel voyage, avoir un meilleur poste, et tout le temps plein de trucs. On désire continuellement, mais on sait pas toujours en fait quoi désirer. Et finalement, on se met à désirer ce que les autres désirent. Tous les gens qui peuplent notre vie, les amis, les gens qu'on croise dans la rue et autres, ils nous montrent en fait quoi désirer. Et se crée alors une relation triangulaire entre l'objet du désir, le modèle et le sujet. C'est comme ça que se créent les effets de mode, les modèles ils font un truc.
qui sera imité par les individus entre guillemets de rang inférieur, et alors les modèles se mettront à vouloir se distinguer par un autre mode de consommation ou encore un autre truc. Mais finalement, dans cette relation, ce que je trouve trop intéressant, c'est qu'on s'en fout de l'objet du désir. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le mimétisme, le fait qu'on imite les autres.
Je me dis que si tu désires un truc, c'est que tu l'as pas. Donc finalement, le désir, ça naît d'un manque, et le but, c'est de combler ce manque-là. Mais des manques, t'en as beaucoup quand sur Instagram, tu peux voir la vie de tout le monde. Donc je pense que la source du problème, finalement, ce serait que Instagram donne la possibilité de voir ce que les gens sont, ont et font. Tu te mets du coup à désirer, à imiter et à devenir à ton tour le modèle d'autrui.
Franchement, le raisonnement se tient. Et la critique, elle fonctionne très bien. Mais du coup, une question s'impose. YouTube appartient à Google. Est-ce que ça ne lui pose pas problème à elle qui aspire à devenir youtubeuse professionnelle ?
Ouais, ça me pose question. Mais en fait, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Tout simplement, tu ne peux pas aller ailleurs pour poster des vidéos. Si, tu peux aller à la télé, mais tu n'as pas la même flexibilité. En fait, ils sont en monopole. Hein. En tant que créateur, tu es obligé d'aller chez eux.
Donc voilà, ce que je ressens quand je suis le parcours intellectuel d'Ami, c'est que petit à petit, elle se politise et qu'elle devient de plus en plus critique. Est-ce qu'elle n'a pas, elle aussi, cette impression ?
Si, je deviens de plus en plus critique. Ça m'inquiète un peu, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais après, je me dis pas que Google est le grand méchant de tout. Parce que ça permet plein de choses, j'utilise tous les jours, c'est génialissime. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que je suis en train de me politiser. Et... Ah là là, c'est vrai, je suis en train de me politiser, mais c'est grave vrai. Bah non, je sais pas, je me dis que c'est pas forcément bien. Tu trouves ça bien, toi ?
Ah bah oui, carrément.
Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas. Ah ouais, c'est un compliment. Ouais,
là, j'essaie de lui expliquer que eux aussi font de la politique et que comprendre comment ils font de la politique, c'est essentiel. Bref, je fais mon daron, c'est ridicule. Et alors, pour me sortir de cette mauvaise passe, je demande à Ami ce qui a changé pour que ces questions, précisément, lui apparaissent aujourd'hui plus importantes.
Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est aussi les recherches que j'ai faites pour mon mémoire, là. Donc ma revue de littérature sur le système de recommandation de YouTube et toutes les lectures que j'ai plus faites. Et là, je commence à avoir une vision un peu plus étayée, peut-être.
Intéressant comment tout se nourrit. Ami fait des vidéos sur YouTube. Elle expérimente la puissance de l'algorithme. Elle en fait le sujet de son mémoire. Et tout ça nourrit des réflexions critiques qui sont ensuite reversées dans les vidéos sur YouTube. Bon, puisqu'on en est aux questions politiques, une autre chose me frappe dans les vidéos d'Ami, c'est la fonction qui joue sa féminité. On sait, la place des femmes dans l'informatique, c'est un problème et ça ne s'arrange pas avec le temps. Or, Ami est une femme, une jeune et jolie femme, qui traite des sujets tech et qui joue de sa féminité.
Les amis, nous voilà réunis en ce jour pour pondre, enfin on va essayer de moi parce que je me rends pas compte de la difficulté du truc, un petit code des familles, j'ai fait mes ongles, ça va grrrr.
Bon, sur le moment, je me suis demandé l'intérêt qu'il y avait à faire ses ongles avant de se mettre à coder, mais bêtement, j'ai complètement oublié de lui poser la question quand je l'ai vue. Bref, Ami se filme beaucoup, le matin au réveil, le soir dans son lit, il lui arrive de danser, parfois elle se pomponne. Alors, je voudrais savoir ce qu'elle dit et pense de tout ça, si elle se fixe des limites. Eh ben oui, des limites, il y en a.
Par exemple, cet été, je me suis jamais mise en maillot sur YouTube. Moi, c'est pas mon délire, hein. Enfin, j'ai pas envie d'exposer mon corps et tout. C'est un truc qui me gêne. Donc ouais, je me filme, mais je suis pas non plus en mini-jupe ou... Je suis moi, quoi, en fait, hein. Je suis moi. Je me présente comme je suis vraiment. Après, j'essaye de caler la caméra pour que je sois pas trop moche non plus. On essaye quand même. Hein. Et voilà.
Ouais, mais bon, il y a quand même un jeu subtil. J'imagine qu'elle doit être regardée par un public, et d'abord un public masculin. Et ça, c'est pas sans poser problème.
Ouais, effectivement, il y a plus de 90% de gens qui regardent ma chaîne qui sont des mecs. En général, les gens sont hyper respectueux. J'ai pas du tout des commentaires. Vraiment, d'ailleurs, je tiens à le souligner, que les gens sont vraiment très sympas avec moi. Et j'ai de la chance parce que moi, ça me fait très peur. Les lynchages sur les réseaux sociaux, vraiment, ça me fait très très peur. Ça m'est jamais arrivé et je croise les doigts parce que je pense que le pire qui pourrait m'arriver, je crois que ce serait un lynchage public, même pas de moi, mais genre de ma famille ou tu vois, des gens que je montre.
C'est important ce que dit Ami là. Bon, évidemment, je nie absolument pas la violence qui existe dans les réseaux. Les exemples sont nombreux, ils sont permanents, et d'ailleurs on en a longuement parlé dernièrement avec les gars de Bodyguard qui sont venus expliquer comment ils tentaient de faire de la modération. Pour autant, il est intéressant de constater que quelqu'un comme Ami, qui s'expose beaucoup, qui est très regardé, et par des garçons, trouve que les gens sont gentils avec elle. D'ailleurs, je me demande comment elle explique cette sympathie.
C'est pas comme les gens par exemple de télé-réalité, qui exposent vraiment toute leur vie, et les gens ont une proximité à eux qui fait qu'ils se croient peut-être tout permis. Et à mon avis, les gens me respectent peut-être plus aussi parce que... Enfin, me respectent plus... Ouais, bah oui, en vrai, si. Me respectent plus que des gens de télé-réalité, sûrement. C'est aussi parce que déjà, je m'expose peut-être moins. Et aussi, ce que je fais, on voit que c'est travaillé, que voilà, c'est toujours sincère. Je fais ça avec bienveillance. Donc, je pense que les gens me rendent aussi ce que je montre.
Donc, on récolterait ce qu'on sème. Malheureusement, je ne pense pas que cette règle soit aussi universelle que cela. Mais bon, il y a quelque chose de rassurant dans ce que dit Ami. Néanmoins, j'ai un peu fouillé. Dans les commentaires qui apparaissent directement sous les vidéos YouTube, c'est vrai que je n'ai trouvé quasiment que des compliments et le plus souvent de bon goût. Mais j'ai trouvé aussi une discussion beaucoup moins amène sur jeuxvideo.com, le forum célèbre notamment pour ses accès de violences sexistes. Pas la peine de détailler, mais c'était pas, disons, d'un respect spectaculaire. Je raconte ce contre-exemple à Amy et je lui demande si elle est au courant.
Ah oui, ma mère me l'a montré. ma mère, elle regarde et tout. Je sais pas comment elle tombe, parfois elle m'envoie des trucs. Je lui dis, mais comment t'es tombée là-dessus? Et bah, c'était vraiment des gros geeks. Des gros geeks qui parlent entre eux.
Justement.
Franchement, je lis ça et je me dis, ouais, je l'ai pas mal pris du tout. Et puis, à la limite, c'était des trucs beaucoup sur le physique. C'était rien de... Moi, je m'en fous que les gens critiquent mon physique. C'est vrai, quand tu t'exposes aussi, t'es... Forcément, tu t'exposes à ça. Tu montes ton physique, donc effectivement, les gens donnent leur avis sur ton physique. Bon, très bien. Hein.
Elle a vraiment une bonne nature, Amy. Hein. Mais puisqu'elle parle de son physique, je continue. Il y a aussi beaucoup de compliments sur ce physique, donc. De gens qui lui disent qu'il la trouve jolie, etc. Et comme, encore une fois, elle en joue, je lui demande de me répondre sincèrement. Est-ce que recevoir ce type de compliment fait partie du plaisir qu'elle a à faire ses vidéos?
Franchement, pas du tout. Vraiment pas. J'ai repensé à ça, mais un nombre de fois, je me suis dit, genre... J'aurais dû ne pas montrer ma tête. Comme d'autres chaînes YouTube, des chaînes YouTube masquées qui ont percé, même si ils ne montrent pas leur visage. Si vraiment tu perces fort, ta vie, c'est plus la même. Hein. Ah, c'est pas mon délire. Vraiment, c'est pas mon délire. Et je sais que quand tu dis ça, les gens ils se disent « Non, mais toi, tu fais des vidéos sur YouTube, tu peux pas dire ça. » Mais si, si, vraiment. Vraiment.
Là, deux hypothèses. Soit Amy est de mauvaise foi et ne m'avoue pas ou ne s'avoue pas à elle-même que ça lui fait très plaisir, ce qui serait d'ailleurs pas un problème en soi. Soit elle est de bonne foi et ses compliments, la petite célébrité qu'elle est en train d'acquérir, sont juste des conséquences de sa réussite, mais pas le but premier. Moi, j'ai tendance à la croire. D'abord parce que la jeune femme que j'ai eue en face de moi cet après-midi ne jouait pas la comédie, enfin j'ai pas eu l'impression en tout cas. Ensuite parce qu'on sait bien que même dans des activités dont le succès se mesure notamment à la notoriété, je pense aux métiers artistiques, du cinéma, de la musique, etc., eh ben on trouve nombre de personnes qui expliquent que la célébrité est une conséquence dont, au fond, il se passerait bien. Alors même que leur métier est par nécessité publique. Ça ressemble à un paradoxe. Mais ce paradoxe, on l'accepte bien dans les métiers de l'art. Alors pourquoi on l'accepterait pas chez les youtubeurs et les youtubeuses? Oui, il y a sur YouTube des codes qui peuvent passer par une incarnation forte, des stratégies de distinction qui font qu'une jeune femme qui parle de techno puisse jouer de sa féminité, mais ça veut pas dire pour autant qu'elle veuille être connue pour ça. D'ailleurs, quand je lui demande de s'expliquer sur ce paradoxe, eh ben elle me dit pas autre chose.
Que les gens t'aiment bien, c'est toujours un peu gratifiant, mais après, en fait, moi ce que j'aime, c'est que les gens aiment mon travail. Avant tout, quand les gens kiffent une vidéo que j'ai produite, je me dis « Ah, ça fait grave plaisir !» Et effectivement, quand les gens te suivent, c'est vrai, c'est de la réussite. Ça, c'est de la réussite. C'est ton travail et c'est de la carrière. C'est comme si t'étais... je sais pas, t'avais une promotion. Non, mais c'est vrai, quand voilà, t'as une vidéo sur laquelle t'as charbonné, t'as grave bossé, et elle te ramène 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, bah, tu te dis « Voilà, j'ai ma petite promotion, quoi. »
Mais j'ai quand même un doute. Un peu trop suspicieux, je le confesse, mais je peux pas ne pas en faire part à Amy. Je suis étonné d'une chose. Dans ses vidéos, on voit ou on entend presque toute sa famille. On voit ses copains et ses copines, mais on ne voit aucun amoureux ou amoureuse. Jamais. Pourquoi ne pas montrer d'amoureuse ou d'amoureux?
Bah, j'ai pas de petits copains, donc effectivement, on voit pas de petits copains dans mes vidéos. Tu te disais peut-être que je montre pas mon mec, comme ça les gens suivent. Bah non, j'ai pas de mec. Merde alors. J'aurais pu faire la meuf mystérieuse, genre ah, je dis pas, c'est personnel. Mais non. Ah non, mais je pense que si j'ai un mec, je m'en fous, je le montre. Hein. Enfin, en tout cas, s'il lui veut bien. Je vais pas cacher mon mec pour que plus de mecs me regardent, tu vois. Non, je suis pas stratégique à ce point.
Alors justement, puisque Amy dit qu'elle n'est pas stratégique à ce point, j'aimerais savoir jusqu'à quel point elle est stratégique. Il y a des années de ça, j'avais interviewé sur France Culture une blogueuse littéraire que j'aimais, mais vraiment beaucoup. Elle s'appelle Sarah Maud Beauchesne. Son blog s'appelait à l'époque Les Fourchettes et il y écrivait de très longs poèmes en prose qui étaient très drôles, très fins, avec une langue absolument incroyable. Et ce qui me frappait, c'était sa manière de raconter sa vie de jeune branchée montréalaise avec de temps en temps de très très belles scènes de sexe, très excitantes. Et je me souviens que je lui avais posé la question de la stratégie précisément.
Est-ce que par exemple vous vous dites, bon là depuis 2-3 textes, je baisse un peu, donc du coup je vais remettre un peu de sexe là?
Ouais, bah, oui, pour aujourd'hui oui, de plus en plus. Je calcule un peu plus, mais j'essaie le moins possible. Mais quand je vois que c'est plus calme, je vois que les plus populaires, c'est justement Team de Trois sur la part qui est très, très, très... c'est vraiment une histoire sexuelle.
C'est l'histoire, en gros, de... Bon, c'est toujours vous, votre personnage. Ouais. Enfin, on a bien compris que c'était compliqué. Vous avez une phrase très jolie parce que vous avez fait une intervention à la BNF il y a 3 jours et vous avez dit « J'invente, je fais croire que j'invente, je fais croire que je n'invente pas, je fais ce que je veux. » Bon, effectivement, c'est ça. Mm-hmm. Et effectivement, team de trois sur la part.
Ouais.
C'est effectivement deux filles et un type, quoi, qui vont se rencontrer, puis finissent par aller coucher ensemble. Ouais. Effectivement, c'est très érotique. Bon. Ouais. Et là, par exemple, vous appâtez. Enfin, vous savez qu'à ce moment-là, ça va marcher.
Oui, c'est ça. Mais c'est là que ça fonctionne le plus, puis ça l'attire beaucoup plus de garçons aussi. Puis j'aime ça aussi avoir un public qui est masculin, aussi féminin, parce que je veux pas que ce soit un blog de filles. J'aime ça que ça soit partagé, puis j'aime ça que ça l'attire les deux.
Bon, c'est pas exactement ce que fait Amy, bien sûr. Mais le point commun, c'est que la gestion de la stratégie ne relève que d'elle. Je lui raconte ce que m'a dit Sarah Maud, et je lui demande ce qu'elle en pense.
Ah bah tu vois, bah moi c'est pareil avec les vidéos hacking. En fait, c'est tout simplement que les gens cliquent beaucoup, naturellement, et ce qui se comprend, sur les sujets hacking. C'est vrai, hein, je hack une webcam, tout le monde se dit oh, « ma webcam peut être hackée, je vais regarder la vidéo ». Je vais pas commencer à faire que des vidéos de hacking parce que c'est pas du tout, c'est pas ce que j'aime le plus et puis je continue à faire ce que je fais. Mais effectivement, je sais que quand je fais une vidéo hacking, c'est une vidéo qui rapportera du monde et qui aura plus de visibilité.
Ok, bah on pourrait en tirer la conclusion que le hacking est au monde de la tech ce que le sexe est au reste de l'humanité. Après tout, il y a essentiellement question de pénétration. Bon, dans une logique un peu hétérobeauf, le parallèle fonctionne. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là parce que ça devient n'importe quoi. Mais avant d'en finir, j'ai une dernière question à poser à Amy. Est-ce qu'elle a une idée de ce qui pourrait la lasser au point qu'elle arrête ?
Le besoin de rentabilité et de faire des choses moins qualitatives pour l'algo.
Et voilà, sans le vouloir, on a bouclé sur l'algo. L'algorithme de recommandation de YouTube est la première chose dont m'a parlé Amy, ce sera la dernière chose dont elle me parle. Quand une chercheuse comme Antoinette Rouvroy parle de gouvernementalité algorithmique pour désigner la manière dont le numérique impose une logique politique inédite, eh ben, je trouve qu'on en a là un exemple flagrant. Le maître d'Amy, le patron d'Amy, c'est l'algo. Et même si elle adore ce qu'elle fait, elle pourrait arrêter de le faire à cause des exigences imposées par ce patron. C'est à méditer. Alors ça faisait déjà un bon moment qu'on discutait, j'ai arrêté mon agra, mais là Amy m'a dit non, rallume, je veux ajouter un truc.
Et toi tu peux nous dire un petit quelque chose, Xavier, s'il te plaît? Non mais si
bah, je parle la moitié du temps dans mes podcasts.
Mais non, tu parles pas. Ouais, mais je sais pas, j'avais envie de que tu donnes ta petite patte sur la fin. Voilà, mais moi je voulais juste te.
Tu peux enregistrer ça, on peut discuter.
Ah, d'accord.
Non,
ok. Non, ouais, non, c'est vrai.
Bah, je vais rajouter ta gueule. Je parlerai.
Parce que parfois, moi j'ai envie qu'il y ait plus de toi aussi, tu vois, dans les podcasts.
Sur le moment, j'avais l'air sûr de moi. Un brin péremptoire. Mais ce dernier échange, il m'est resté en tête longtemps après. Sans doute parce qu'il résume à la fois ce qui m'intéresse chez Amy et ce qui me la rend exotique. Ce qu'elle fait, je serais incapable de le faire. Pourtant, par rapport à un journaliste moyen, je parle tout le temps, je dis beaucoup je me permets de donner mon avis ou même d'évoquer des trucs personnels, mais j'ai déjà l'impression que c'est trop. Alors, quand Amy me dit qu'elle aimerait plus, je mesure tout ce qui nous sépare. Ce gouffre a sans doute plusieurs causes. Il y a le caractère générationnel déjà. J'éprouve un peu la même sensation quand j'écoute les jeunes podcasteurs et podcasteuses. Je les écoute avec passion, mais il y a toujours un peu de circonspection face à la manière dont ils se livrent et elles se livrent dans leur podcast. Donc, il y a peut-être une raison générationnelle, mais il y a aussi une raison professionnelle. Même si j'ai pas été formé au journalisme, c'est quand même le métier que j'exerce et j'en ai adopté la plupart des codes. S'effacer en fait partie et déjà je le respecte assez moyennement ce code. Or, Amy, elle ne fait pas du journalisme. Même si elle fait passer des informations, même si parfois elle enquête, elle fait autre chose que du journalisme. Les youtubeurs font autre chose que du journalisme. Et cette autre chose, même si ça m'intéresse, même si ça peut provoquer mon admiration, eh ben ça échappe à mes vieilles catégories. Cette autre chose, ça n'est pas ma culture. Bref, en éteignant définitivement Snagra, je me suis senti vieux. très vieux. Merci beaucoup à Amy Plant. Sa chaîne Ici Amy Plant est facilement trouvable sur YouTube. À la prise de son, c'était Guillaume Roux, au mixage Basile Bocquer, réalisation Fabrice L'Aigle. C'était Le Code a changé, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.